L'assurance maladie lance une nouvelle campagne d'information sur les arrêts de travail et vous allez nous en parler. Anne-Lise Montéléone, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du service prévention et lutte contre les fraudes. Quand un assuré est en arrêt de travail, comment ça se passe? Il est allé chez le médecin, forcément.
Il est allé chez le médecin et le médecin lui a prescrit un arrêt de travail. Et donc, comment doit-il transmettre son arrêt de travail à l'assurance maladie? Il y a deux possibilités. Donc, soit le médecin lui fait un arrêt de travail papier, auquel cas l'assuré doit envoyer son arrêt de travail à la caisse primaire ou le déposer directement à la caisse primaire dans les 48 heures et donner le volet numéro 3 à son employeur. Ensuite, vous avez une deuxième possibilité, c'est le médecin lui-même qui transmet à l'assurance maladie de façon dématérialisée l'arrêt de travail. Et donc, l'arrêt de travail s'injecte directement dans les bases de l'assurance maladie. Par contre, il doit quand même donner le volet 3 à son employeur.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce formulaire ?
Alors, l'imprimé se compose de trois parties essentielles. Donc, vous avez la première partie qui sont les coordonnées de l'assuré. Vous avez ensuite la partie des coordonnées de l'employeur. Donc, c'est le médecin qui remplit ces deux parties. Ensuite, vous avez la troisième partie qui est quand même importante puisque ça fait référence à la pathologie. Donc, le médecin remplit les périodes d'arrêt de travail, remplit la pathologie de la personne. Et ensuite, vous avez la partie qu'on appelle les sorties autorisées ou les sorties libres. Donc là, il faut bien faire la différence entre les sorties autorisées et les sorties libres.
Oui, parce que c'est ce qui crée, en général, les contrôles ou les problèmes.
Voilà. Donc là, je vais insister un petit peu sur ce point-là, puisque c'est quelque chose qui est important, notamment sur les contrôles administratifs qu'on peut effectuer ensuite. Vous avez donc les sorties autorisées. Donc, la personne doit rester à son domicile à des heures précises, qui sont de 9h à 11h et de 14h à 16h. C'est-à-dire qu'une personne de la caisse primaire, notamment un agent agréé assermenté, peut se rendre chez la personne à ces horaires-là. Ensuite, vous avez la partie des sorties libres. Donc, je rappelle quand même que cette partie-là doit rester exceptionnelle. C'est le médecin qui argumente les sorties libres en fonction de la pathologie de la personne. Donc, exceptionnel et argumenté.
Des sorties autorisées ou des sorties libres, c'est déjà une obligation pour l'assuré à respecter. Quelles sont les autres obligations des assurés en arrêt de travail, Anne-Lise Montéléone ?
Alors, il faut savoir qu'il existe un article de loi du Code de la Sécurité sociale, donc c'est l'article L323-6 du Code de la Sécurité sociale, où figure l'ensemble des obligations que doivent respecter les assurés. Donc, si vous le voulez bien, je vais peut-être les rappeler, puisque ça me semble quand même important.
Oui.
Donc, cet article de loi est disponible sur Internet, donc tout un chacun peut aller chercher cet article de loi et vérifier, et respecter, je dirais, ces obligations qui sont importantes pour nous. Donc, vous avez tout d'abord la première obligation qui est d'observer les prescriptions du médecin. C'est-à-dire, si votre médecin vous prescrit des médicaments, vous devez respecter ses prescriptions. S'il vous prescrit du repos à domicile, vous devez respecter cette prescription également. Vous avez bien évidemment tout ce qui est contrôle au service médical, c'est-à-dire que si le service médical vous convoque, vous devez honorer le rendez-vous et cette convocation auprès du service médical. C'est une obligation aussi. Ou alors, il faut prévenir le service médical si vous ne pouvez pas y aller. La troisième obligation, c'est celle qu'on disait, c'est celle des sorties des heures obligatoires à domicile, donc 9h, 11h, 14h, 16h. Donc ça fait bien partie des obligations pendant un arrêt de travail. Ensuite, vous avez s'abstenir de toute activité non autorisée. C'est-à-dire que si vous êtes en arrêt de travail, bien évidemment, vous ne pouvez pas faire d'autres activités à côté.
Oui, vous ne pouvez pas aller travailler dans un autre service.
Tout à fait, chez un autre employeur ou même des activités de la vie quotidienne, il y a certaines choses qui ne sont pas autorisées. Ou alors, il faut demander l'autorisation préalable à son médecin.
Qui le transmettra à l'assurance maladie.
Voilà, exactement. Et ensuite, et la plus importante dans la lutte contre la fraude, c'est de s'abstenir de toute activité non autorisée et rémunérée. Voilà, parce que vous avez effectivement des personnes qui, pendant leurs arrêts de travail, travaillent de façon rémunérée pendant leurs arrêts de travail. Et donc là, on parle bien de fraude.
Donc, toutes ces obligations Forcément, puisque vous utilisez le terme de fraude, elles ne sont pas suivies toujours correctement.
Tout à fait. Donc, nous sommes là effectivement pour vérifier et contrôler que certains assurés respectent ces obligations. Donc, au cours d'une année, on peut effectuer des contrôles à domicile, on peut faire des recherches hein, sur nos bases, on peut réceptionner différents signalements, que ce soit internes ou externes, qui nous permettent de détecter des fraudes et ainsi de pouvoir sanctionner ou alors récupérer les sommes qui sont indûment versées dans le cadre de la arrêt de travail.
Combien ça coûte à l'assurance maladie les fraudes chaque année ou au moins l'année dernière?
Alors sur le bilan de l'année 2007, nous avons eu 33 fraudes qui ont été détectées au cours de l'année pour un montant global quand même de près de 125 000 euros, ce qui n'est pas négligeable en termes de montant.
Une équipe donc est chargée de contrôler ces arrêts de travail. Comment elle sait telle ou telle fraude, il y a des signalements?
Alors effectivement, il y a toute une équipe qui est dédiée à la lutte contre la fraude, hein, donc sur les assurés, mais aussi sur les professionnels de santé, sur les employeurs et les établissements, pas que sur les assurés, je tiens quand même à le rappeler. Mais sur les assurés, nous avons des détections qui se font en interne, par des signalements de nos services de production, par exemple. On a également des signalements qui nous parviennent de l'extérieur, par exemple les employeurs, hein, notamment sur les arrêts de travail de complaisance ou des suspicions d'activités non autorisées pendant les arrêts de travail. Vous avez également des signalements de nos partenaires, puisqu'on travaille beaucoup en partenariat avec les autres organismes, les impôts, la CAF, l'URSSAF, etc. Donc on peut très bien avoir des signalements de nos partenaires. Et en parallèle, on a des programmes nationaux qui nous permettent de croiser nos fichiers et de pouvoir détecter des fraudes aux indemnités journalières.
C'est connu, hein, dès qu'on ne respecte pas la loi, on est sanctionné, que ce soit sur la route ou pour l'assurance maladie. Qu'est-ce qu'on encourt quand on triche ?
Alors, tout dépend des typologies de fraude, hein, puisque les sanctions sont graduées en fonction des faits et des griefs qu'on peut détecter et investiguer. Ça commence par la récupération des sommes qui sont indûment versées. Donc, on peut s'arrêter là, c'est-à-dire qu'on réclame l'argent à la personne qui n'a pas respecté une des obligations. Notamment, par exemple, quand on fait un contrôle administratif et la personne n'est pas à son domicile. Donc là, on va sanctionner la période d'arrêt de travail où on a contrôlé. Mais on n'ira pas au-delà, c'est-à-dire qu'elle aura cette sanction-là de nous reverser les sommes. Ensuite, vous avez tout ce qui est activité rémunérée pendant des arrêts de travail. Donc là, on est sur une typologie de fraude avérée. Et donc, nous récupérons les sommes, mais nous mettons en place la procédure des pénalités financières, c'est-à-dire c'est une sanction administrative supplémentaire à la récupération des sommes indues.
Avec amende.
C'est une amende, voilà. C'est une sanction financière. Donc, l'année dernière, par exemple, nous avons fait 9 pénalités financières pour près de 20 000 euros. Donc, c'est quand même des sanctions qui peuvent être assez importantes en termes financiers. Et bien évidemment, si on arrive à des montants beaucoup plus conséquents, entre 25 000 voire plus, on peut déposer plainte contre la personne, puisque là nous sommes sur de l'escroquerie, c'est ce qu'on qualifie d'escroquerie. Et donc là on peut déposer plainte et il peut y avoir condamnation pénale pour la personne.
On redit, puisque c'est bien là que les problèmes les plus fréquents se posent, donc la différence entre la sortie autorisée et la sortie libre.
Oui, c'est important. Même pour les médecins prescripteurs, il faut aussi qu'ils apportent une attention particulière à cette différence entre les sorties autorisées et les sorties libres. Donc sortie autorisée 9h, 11h, 14h, 16h à domicile, sortie libre reste exceptionnelle et doivent être argumentées par les médecins.
Merci Anne-Lise Montéléon et puis on retrouve Merci. Ces informations sur le site amélie.fr et si vous avez ouvert votre compte Amélie et que vous avez une question précise, eh bien vous pouvez la poser et on vous répondra dans les 48 heures. Merci.
Merci.
Ceci est un message de l'assurance maladie. Tout comme un médicament, un arrêt de travail est un traitement à part entière. Il ne se prend pas à la légère. C'est à votre médecin de décider si vous en avez besoin ou non. Il définit sa durée selon votre pathologie, votre emploi et votre situation personnelle. Pour les arrêts de longue durée, il peut aussi vous conseiller pour préparer votre reprise d'activité.
L'assurance maladie.
Votre médecin peut déclarer votre arrêt en ligne, sinon vous avez 48 heures pour l'envoyer par courrier. L'assurance maladie peut effectuer des contrôles, respecter les horaires de présence à domicile.